Au Capi Action, du lundi au vendredi, de 9h à 12h heure de Kinshasa, avec Nicole Ngaka et J.R. Lungemo.
Voilà, nous poursuivons avec Au Capi Action. Après la varicelle chez l'enfant, nous allons parler de dialogue en famille avec Nathalie Mouteba, et nous signalons que nous aurons comme invité Jacques-Aimé Bazé-Bosso, secrétaire général de l'Association pour la Famille. Mais ce qu'il faut retenir, en Afrique, généralement, les dialogues en famille posent des sérieux problèmes. Alors avec Nathalie qui s'est penchée sur la question, nous en saurons un peu plus. Nathalie, vous êtes là avec nous dans ce studio, et apparemment vous avez bonne mine. Très bonne mine. Alors, quels sont les effets d'un dialogue en famille et aussi quelles en sont les conséquences?
Bah écoutez, J.R., avant de nous lancer dans les vifs du sujet, un petit cours rapide sur le mot dialogue. Dialoguer, ou le dialogue, est une communication entre deux ou plusieurs personnes ou groupes de personnes. En principe, il faut qu'il y ait au minimum un émetteur et un récepteur. Le dialogue utilise un code, qui est le langage, et le message, qui est la donnée émise. Donc, en famille, il faut qu'il y ait un certain langage qui passe un certain message, mais dans le but, évidemment, de créer une atmosphère détendue. Mais la question est de savoir si les familles congolaises appliquent ce bon principe. Nous avons abordé des parents, écoutez ce qu'ils disent.
Tofana na bango bien, toujours solo là, pour faire sa bango conseil, et ça va tambour dans le pays, c'est zone en Angela, au moins y'a ta ou sali l'icam, moi n'a tout n'y a ni tona, au PC réponse carrément.
Donc, on a la rana sonité, donc, au bang à te, y'a que le bas moi, n'a rue, ça moi n'a polé, les soirs à poser aux questions songolo.
Il fallait que soulana moi n'a pas eu, ça y est, sonia, n'y a pas eu, y'a que moi n'a son, c'est qu'on en a eu, ça y est. Fale yo mama osolo ina yo lakise makamunusu ndengi nzala.
Mwana mamu kumoku, yo wanta la mtuma la Egypte to. Lode mon dispeke, kwa mkwa mabari sumusu. Kile te mba yuma ampe gyalo. Ae demokrasi kia wo kamu kumoku, anga kufonse banate, anegosiaka, aosola, ospikile kumusu ni zanete. Kada yano kwa sandi, so asa mswana le,
Voilà, quelqu'un qui a préféré garder l'anonymat, hein, passer l'anonymat. Alors, Nathalie, on va évoluer sur la question. Nous venons là d'entendre nos parents. Le langage n'est pas seulement l'apanage des parents, il y a aussi des enfants. Est-ce que vous nous avez contactés?
Oui, nous parlons dialogue, n'est-ce pas, hein, J.R.? Donc, il s'agit, et nous l'avons dit, d'une communication entre émetteur et récepteur. Si les enfants, à un moment donné, jouent le rôle de récepteur, ils deviennent également des émetteurs. Nous avons rencontré également certains enfants qui allaient à l'école. Écoutez plutôt ce qu'ils nous disent.
Moi, je suis en contre-monnaie mécanique.
Dis-moi, est-ce que tu dialogues facilement avec tes parents?
Oui, moi, je dialogue facilement avec mes parents. Quand ils viennent, je les salue. On se met sur les tables. On discute. Si je vois que maman et papa, donc, ils ne s'entendent pas, je lui dis, papa, pourquoi comme ça?
Je réponds au nom de Charlotte. Bon, je suis en quatrième coupe écriture. Quand le papa vient au travail, on cause bien. Bon, je lui demande tout ce que je veux. Il me donne. Bon, nous sommes bien, très bien à la maison.
Alors Nathalie, que pensent les spécialistes? Je veux dire, c'est ceux-là qui aident parfois les parents ou les familles qui, disons, à résoudre parfois certains problèmes autour du dialogue.
Oui, Gilles, le professeur Moupapa que nous avons contacté définit au départ la famille comme une association dans laquelle il ne manque pas toujours des problèmes.
D'abord, une famille, c'est une association d'individus. Donc, en tant qu'association d'individus, il y a toujours des problèmes à l'intérieur, des conflits plus ou moins graves qui peuvent naître. Alors, cela, en temps pour survivre, pour que ce groupe, c'est-à-dire la famille, puisse survivre, il faut qu'il y ait la compréhension les uns des autres. Et cette compréhension ne peut venir que d'un dialogue, que ce soit entre le mari et l'épouse, entre les parents et les enfants, donc un dialogue qui est indispensable pour la cohésion et l'épanouissement de ce groupe.
Voilà, nous avons écouté beaucoup de gens. Il existe des familles où les parents sont des véritables dictateurs, ça on sait, hein, Nathalie. Mm-hmm. Mais comment recréer la confiance en ce moment là auprès des enfants, parce qu'il y a des enfants comme ça qui ne pensent plus positivement à, disons, pour leurs parents, quoi.
Tout à fait. Il y a des familles où les enfants ont même donné des surnoms à leurs parents. J'y ai. Le père devient le préfet de discipline. J'en connais qui ont surnommé leur père Mbassou, du nom de la maladie qu'on connaît évidemment. D'autres l'appellent Zorro, Terminator. En fait, ce ne sont pas des surnoms qu'il faut donner à un père. C'est papa. Et c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Mais bon, ce genre d'attitude éloigne les enfants. Comme le dit le professeur Moupapa encore une fois, il faut instaurer le dialogue dès le départ afin de créer la confiance chez l'enfant. Mais alors, pour ces parents qui parfois s'adressent à leurs enfants comme si c'était des subordonnés, qui donnent plus des ordres plutôt que de dialoguer avec leurs enfants, qui ne parlent presque jamais avec leurs enfants, et si jamais ils décidaient tout d'un coup de se rattraper, pensez-vous que cela soit possible?
Écoutez, d'abord, je pense que tout est lié d'abord à notre tradition. Dans le temps, les enfants, lorsqu'ils parlaient avec les parents, ne pouvaient pas les regarder dans les yeux. Et donc, ça se passait de façon presque unilatérale, c'est-à-dire, ça venait du père ou de la maman vers les enfants. Il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas l'initiative des enfants dans les dialogues. Mais aujourd'hui, où la famille s'est ouverte à ce qui se passe ailleurs, je pense que il faut que ce soit plus spontané. Le père doit devenir le complice de ses enfants. Et la mère doit être la complice de ses filles pour connaître leurs problèmes, parce qu'elle a été fille aussi. Elle connaît tout ce qui peut survenir dans la vie d'une fille. Mmh. Et donc, elle doit pouvoir en faire des amis, des complices pour avoir leur confiance. Sans la confiance au départ, il n'y a pas de dialogue. Mmh. Parce qu'en ce moment-là, les enfants vont s'adresser à leurs amis qui vont leur donner des informations plus ou moins rassurantes. Mmh. Et donc, je dis qu'il faut nécessairement que ce dialogue soit établi dès le départ et sous la base de la confiance et d'une certaine complicité.
Ce qu'il faut retenir, le dialogue est important, hein, famille Nathalie.
Oui, il faut l'instaurer le plus tôt possible, comme vient de le dire le professeur Moupapa. Entre l'homme et la femme, c'est dès les fiançailles. Il ne faut pas attendre que vous soyez dans le foyer pour le faire. Il faut que les deux partenaires parviennent à discuter de tout sans aucune crainte ni entrave. Avec les enfants, c'est le plus tôt, évidemment. L'enfant ne doit pas considérer ses parents comme des personnes inaccessibles. Dans certains foyers, pour voir le père, il faut demander audience. À ce qui paraît, il faudrait vérifier l'histoire. Bref, le dialogue est réellement un facteur important dans l'épanouissement d'un foyer.
Merci Nathalie, et on se retrouve très prochainement dans un autre dossier. Nous pouvons d'ailleurs vous souhaiter un bon week-end. Hein.
Merci à vous autant.
Le sport sur Radio Capi, du lundi au vendredi à 7h20 et à 18h50. Le dimanche de 15h à 19h, le magazine avec des matchs en direct, des reportages, des portraits, des dossiers. La passion du sport, c'est sur Radio Capi.
Jacques-Aimé Bazé-Bosso, docteur Jacques-Aimé Bazé-Bosso, nous rappelons que vous êtes secrétaire général de l'association pour la famille AFA. Vous venez de suivre le point que venait de nous faire Nathalie Mouteba. Quels sont, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, quels sont les risques qu'encourt une famille qui, en son sein, n'organise pas un dialogue?
Bon, de toutes les façons, une famille qui n'organise pas de dialogue est une famille qui est vouée à l'échec. Donc l'éducation, je ne vois pas comment on peut la faire. Le dialogue en famille, pour nous, au niveau de la femme, nous sommes convaincus que c'est une émanation du dialogue d'abord entre les deux conjoints. Et nous constatons de plus en plus que cet esprit n'est pas très développé dans notre milieu. Souvent, vous constatez dans des foyers que vous fréquentez, la télévision, c'est comme les professeurs de la famille. Tout le monde est autour de la télévision et les gens entre eux ne se parlent pas. Ça, ce sont des blocages. Et nous conseillons souvent que les deux parents, en tant qu'amis, ils doivent apprendre à parler et à beaucoup parler, à avoir le temps pour eux deux. Et ce n'est que de cette liaison presque cohérente, une bonne liaison entre les deux parents, que l'éducation des enfants se fera aussi dans la même logique. C'est-à-dire parler avec papa ou parler avec maman, ça sera la même chose. Et puis dans la famille, l'esprit de dialogue va être très développé. Et nous pensons, comme l'a dit le professeur Moupapa, s'il n'y a pas vraiment un vrai dialogue, on ne peut pas penser à atteindre le maximum d'éducation qu'on veut donner à ses enfants. Et c'est dans ce cadre que nous conseillons et nous organisons des formations pour les parents, d'abord pour aider et ensuite pour l'éducation de leurs enfants.
Mais nous avons vu des familles qui organisent des dialogues, les enfants échouer sur le plan social.
Il y a dialogue et dialogue. On parle de quoi? C'est-à-dire, les parents doivent connaître les éléments de base dans l'éducation de leurs enfants. Nous, souvent, on se base simplement sur l'instruction, c'est-à-dire que les enfants fréquentent de meilleures écoles, mais la maison ne fait presque rien. C'est-à-dire, on ne travaille pas à ce que les enfants acquièrent des vertus, la politesse, le travail, la laboriosité, la discipline, et puis l'esprit de travail. C'est-à-dire, les enfants doivent apprendre à travailler d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est un ensemble qui nécessite une bonne cohésion. Vous ne pouvez pas réussir dans une partie et échouer dans l'autre. Je pense que éducation et instruction sont les deux éléments. Mais souvent, vous allez constater, il y a dialogue par rapport à l'instruction, mais par rapport à l'éducation, par rapport à ce qui est réellement notre enfant, souvent les parents ignorent. Ce qui fait que, comme l'a dit mon prédécesseur, il y a des enfants qui parlent mieux en dehors de la famille que dans la famille. En famille, on parle que papa, à l'école, on a dit ceci, à l'école, on veut ceci, et puis on pense que c'est ça le vrai dialogue. Non, nous pensons que le vrai dialogue, c'est que les enfants doivent avoir comme amis d'abord leurs parents. Et il faut parler de tout. Il n'y a pas de sujet tabou en famille. Mais tenir compte de l'âge de chaque enfant.
Mais c'est ça le problème. La cellule de base d'éducation qui est la famille, marche de pair avec la cellule d'instruction qui est l'école, mais en fait, on néglige l'éducation diffuse et aujourd'hui on crée un tabou autour de ça et c'est ce qui fait d'ailleurs un blocage.
Oui, au niveau de l'association pour la famille, nous avons un adage que nous utilisons souvent, qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ça signifie que moi, je suis chez moi, je pense que mes enfants sont bien éduqués, les enfants de mes voisins ne sont pas bien éduqués, je m'en fiche. Mais je ne sais pas qu'à la longue, mes enfants auront l'éducation de mes voisins, parce que c'est le milieu de vie de mes enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de l'association pour la famille, nous avons mis en place une école, mais cette école est une émanation des parents qui ont constaté que nous voulons atteindre une certaine éducation, instruction pour nos enfants. Ce sont des initiatives à encourager, ce sont des écoles de proximité. Que les parents visent un objectif ensemble et atteignent cet objectif aussi ensemble. Mais si tu veux réussir seul dans un milieu qui est pourri, mais comment tu vas y arriver? Il n'y a pas moyen. Nous connaissons tous les proverbes qui disent une orange pourrie à côté de bonnes oranges, ça va contaminer le tout.
Oui, ben, donc on pense que le fait d'être parent ne suffit pas pour être directement éducateur. Encore faut-il qu'il y ait des psychologues ou des accompagnateurs familiaux. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Bon, en ce qui concerne les domaines psychologues et accompagnateurs, mais j'aimerais bien mettre les tout dans le cadre d'accompagnateurs. Être parent n'est pas suffisant. On peut être parent tout simplement parce qu'on a la capacité de procréer des générations. Mais on peut être parent totalement à côté de la façon dont il faut éduquer un enfant. On donne toujours un exemple. Quand nous allons dans un magasin acheter un appareil, on nous donne une notice.
Docteur Jacques, on va poursuivre avec vous. Restez en ligne, le temps pour nous de proposer l'actualité. Il est 11h à Kinshasa. La chef au Mimi Ngumba Mulongo.
Cassé occidental, une grenade a explosé hier jeudi dans la localité de Nzapo, située à une vingtaine de kilomètres de Kananga. Elle a fait 3 blessés graves qui sont en ce moment dans un hôpital de la place. Selon la police, la cause de cette explosion serait une mauvaise manipulation par l'une des victimes de la grenade. La police dit poursuivre des enquêtes pour établir les responsabilités. Au sud Kivu, 2 militaires du 112e bataillon basé à Ndibira sont morts foudroyés jeudi dans la soirée à Luago, collectivité de Ninja. Selon le colonel Kasha Mike, commandant des opérations à Kanyola et Ninja, l'infirmier titulaire du centre de santé de Luago a été paralysé par la foudre. C'était sous une pluie fine qui s'abattait sur la région hier aux environs des 17h. Situation presque pareille au nord Katanga, où une fille d'environ 15 ans est morte foudroyée à la cité de Kalemi ce vendredi matin. L'incident s'est déroulé sous une petite pluie. La famille de la victime a récupéré les corps qui gisaient dans la rue, non loin de la place publique de Quatre Coins. Et pour terminer, dans la province du Bas-Congo, cérémonie de remise de vélo hier jeudi à Boma aux encadreurs des enfants de 3 à 5 ans par l'UNICEF en partenariat avec les PSP Boma. 15 vélos ont été distribués dans les 5 espaces communautaires d'éveil, soit 3 vélos par espace. Cette manifestation a été présidée par le chef de sous-division de l'enseignement primaire et secondaire de Boma.
Nous poursuivons. Docteur Jacques Aimé Bazé-Bosso, nous rappelons que vous êtes secrétaire général de l'association pour la famille AFA. Vous êtes encore en ligne?
Oui, je suis
sûr. Alors, nous avons parlé de l'insuffisance de certains parents et cela exigerait peut-être qu'on ait un accompagnateur, oui.
Oui, oui, c'est ce que je disais, non? Quand nous avons des appareils, il y a des notices, comment utiliser l'appareil. De la même façon, quand on devient parent, on doit connaître comment éduquer un enfant. La présence des psychologues, des pédagogues, d'autres personnes des différentes spécialités qui concourent à la bonne éducation de l'enfant est sinon indispensable mais obligatoire pour atteindre une bonne éducation.
Oui, donc là, vous vous sentez très mal parce qu'il y a une radio à vos côtés. Si vous pouvez peut-être l'éteindre, comme ça on va bien s'écouter. Hein.
Oui. Ok, on peut aller.
Voilà, d'accord. On disait aujourd'hui, il y a des problèmes parce que entre l'école et la famille, vous l'avez bien dit, il faut qu'il y ait, un rapport au bon fixe, c'est-à-dire en complémentarité, les deux cellules doivent normalement se réunir. Oui. Alors, nous remarquons qu'aujourd'hui, au niveau des écoles, il n'y a pas d'accompagnateur. Est-ce que ça ne pose pas de problème?
Si, ça pose un problème. Nous devons demander aussi quel genre d'école nous avons présentement. Si vous constatez, aujourd'hui, on parle enfant de la rue, on parle de la formation insuffisante, des renforcements des capacités, ça signifie qu'à la base, il y a quelque chose qui a manqué. Il y a des formations continues qui sont nobles pour toute personne, mais je pense que l'école, aujourd'hui, ne répond pas valablement aux besoins d'une éducation de base, si je dois le dire. C'est pourquoi il faut, au niveau des écoles, améliorer la façon de faire. Je pense que c'est ça.
Est-ce que tout parent dictateur est forcément un mauvais éducateur?
Non. C'est-à-dire, il faut faire la part des choses entre les caractères et les comportements. Je pense qu'ils se prennent mal des fois en voulant atteindre à tout prix quelque chose par rapport à leur enfant, mais ils procèdent par des méthodes peut-être qui ne sont pas pédagogiques. C'est pourquoi ces gens de parents, ils sont dictateurs parce qu'ils aiment leurs enfants, ils ne sont pas dictateurs parce qu'ils détestent leurs enfants. Mais vous comprenez qu'ils ont les soucis que les enfants se comportent selon ce qu'ils ont en tête. C'est pourquoi il faut aider ces gens de parents dans la procédure d'atteindre leurs objectifs.
Et vous, vous les faites dans votre association?
Bien sûr. Nous avons des cours d'orientation familiale avec plusieurs modules. Il y a des modules pour les conjoints eux-mêmes, c'est l'amour conjugal. Il y a des modules pour l'éducation des enfants selon les âges. Il y a des tout petits jusqu'à l'adolescence.
Donc ça, c'est parmi les activités parascolaires. Donc vous recevez quand même des enfants après l'école.
Bon, en ce qui concerne les enfants, ils ont des modules de formation dans l'école. C'est-à-dire, au niveau de l'éducation, il y a les programmes nationaux, mais il y a quand même quelques modules en fait pour que les enfants apprennent à acquérir quelques vertus au niveau même de l'école. Ça ne dérange pas les programmes, on a travaillé pour que ce soit une chose efficace.
Mais vos actions ne sont pas vraiment visibles. Vous travaillez réellement dans quelle école?
Nous avons l'école et le complexe scolaire Minzoto au quartier Rigini à Lemba. Il y a le complexe scolaire Bilombe toujours à Rigini. Il y a les deux, mais ce sont des écoles. Il y a des parents. Les deux écoles ont un total actuellement de 400 élèves. Je pense que les parents qui ont des enfants dans ces deux écoles peuvent témoigner.
Ce sont des écoles privées et deux écoles seulement, ça ne représente rien parmi la forêt, une multitude d'écoles que nous avons dans la capitale. Pourquoi n'associez-vous pas le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire travailler en synergie avec eux? Peut-être qu'ils pourraient vous donner l'aval de travailler presque dans toutes les écoles ou carrément signer avec les écoles conventionnées.
Il y a l'association pour la famille à 4 ans d'existence. Nous sommes en train de faire un travail, nous sommes en train de progresser, mais il est vrai aussi qu'il faut consolider les acquis pour progresser. Nous ne sommes pas fermés. Nous avons des relations avec le ministère de l'Éducation nationale ou de l'EPSP. Nous avons des relations avec le ministère de la famille. Nous travaillons avec les décideurs parce que de nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de changer les choses. Mais si, par voie consultative, nous pouvons donner quelques conseils au niveau conseil technique, parce que c'est la matière qu'on peut dire qu'on a un peu de compétences, on peut dire au niveau des ministères, et les ministères, le moment venu, peuvent les élargir au niveau de toute la République. Mais en ce qui nous concerne, il y a des échanges avec beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres écoles.
Alors nous avons beaucoup de réactions. Nous commençons par la réaction de Swale Kapalata, qui est béni. Il dit « Beaucoup de parents confondent dialogue et donner des ordres. Ça me fait très mal que mon père soit cool dehors qu'à la maison. Il considère plus les avis des tiers que des enfants, de ses enfants. Il ne s'excuse jamais quand il offense ses enfants. Quelle attitude avez-vous par rapport à cette réaction ?
Bon, si je dois prendre au mot l'interlocuteur, un parent qui est cool à l'extérieur et méchant à la maison, ce n'est pas une bonne attitude. Un parent doit être très gentil à l'égard de sa femme et de ses enfants. Et puis, autre chose, dire que ce sont des ordres que les parents doivent donner, je pense que les parents ont le droit de donner des ordres. Ils sont amis, mais ils sont autorités quand même. Et ils ne doivent pas prendre les parents pour des amis-amis. Les parents sont des autorités. Ils disent des choses amicalement, mais peuvent donner aussi des ordres quand un enfant ne veut pas se conformer.
Oui, ben, dans une famille où les enfants, préfèrent tel ou tel autre parent au profit de tel ou tel autre, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dangereux?
C'est très dangereux, c'est très très dangereux, et je pense que les parents doivent éviter cela. Ça, c'est aux parents la tâche de corriger cela. Il faut éviter qu'une punition donnée par l'un des parents, ou bien un ordre donné par l'un des parents, et que l'autre l'échange. Si l'enfant préfère la maman doit toujours envoyer les enfants chez papa par rapport à une tâche donnée, de façon que celui qui a donné la tâche continue à les surveiller. Sinon, ce sont des échappatoires et ça finit toujours mal.
C'est une fausse évidence de croire que les filles doivent tout le temps se référer à leur maman et les garçons autant avec leur père.
Bon, je ne suis pas trop de cet avis. Les parents sont les parents. Les parents, c'est les dialogues. Ils transmettent l'amour qu'ils ont à l'égard de leurs enfants.
Mais parce qu'on dit souvent que les filles ont beaucoup de secrets à dire et ça passe bien avec leur maman, notamment leur période menstruelle et puis...
Oui, c'est déjà là le début du blocage. Qu'une fille, bon, il y a des matières, on peut dire matières, mais normalement, tout, on peut le dire à papa qu'on voit à maman. C'est comme si j'allais à l'hôpital, je trouve un médecin homme parce que je suis femme et j'ai mes limites à dire ce qui est essentiel. Ce n'est pas normal. Et pourquoi pas le dire à son père?
Oui, mais il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on peut facilement dire à une femme, qu'on peut le dire à un homme.
Bon, je le concède à cela, mais dans la famille, bon, c'est-à-dire des matières un peu très spécifiques, oui.
Des matières délicates.
Oui, je comprends. En tant que femme, il y a des choses qui touchent directement la maman. Mais l'éducation ne se limite pas simplement à ces choses. Il y a pas mal de choses. Il y a toute une intégration de faits. Je pense qu'il faut parler. On dit en général, il faut parler, mais il y a des spécificités.
Oui, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est africain. Il faut reconnaître une chose. Docteur Jacques Aimé, c'est que ici, au Congo, on tient plus compte de la tradition. Et bon, qu'un homme parle de ses problèmes, un jeune garçon parle de ses problèmes à sa mère, c'est un peu difficile. Ça passe beaucoup plus facilement quand c'est une femme, une jeune fille qui le fait, et vice-versa.
Et si la maman a des compétences plus que le papa en la matière, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, mais c'est rare, hein? C'est difficile.
Ah oui.
C'est
non, parce que la maman peut avoir une formation spécifique dans la matière. Vous voyez qu'elle peut aider plus que papa. Ça ne vaut pas la peine simplement de parler à papa ou à maman, mais c'est, il faut chercher plus le bon résultat.
Oui, ça dépend d'une famille à une autre. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, bon, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de dépravation des mœurs. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas au courant des choses qu'elles devraient normalement savoir à un certain âge. Il y a comme un blocage dans la maison et finalement la fille apprend dans la rue, elle apprend chez ses copines. Conséquence, après, bon, c'est trop tard, on ne peut plus changer. C'est pareil pour le jeune garçon. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui se droguent parce qu'on ne leur a pas dit que se droguer c'était mauvais. Et peut-être aussi parce que déjà dès le départ, il y a un blocage à la maison, il ne peut pas parler ni à son père ni à sa mère. Alors, aujourd'hui, pour évoluer sur la question, docteur Jacques Aimé Bazebozo, en tant que secrétaire général de l'association pour la famille, ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous vous activez afin que vous soyez présent dans toutes les écoles, pourquoi pas ici dans la ville de Kinshasa et ailleurs, mais aussi pour vous battre de façon à ce qu'il y ait des psychologues à travers les écoles de la capitale et ailleurs?
Si, nous sommes, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes en train d'y travailler, mais il faut connaître qu'il faut une coalition plutôt d'associations qui travaillent dans ces cadres-là pour arriver à atteindre une plus grande population. En ce qui concerne notre association, nous élargissons nos activités. À partir de cette année, nous avons la collaboration avec 4 autres écoles qui sont autour de nos écoles en vue d'étendre tout cela. Je pense que vous avez raison là-dessus, mais il faut tenir compte des moyens humains et des moyens matériels pour atteindre une plus grande population.
À votre niveau, c'est peut-être un peu difficile parce que vous avez besoin des moyens. Mais le pays ne manque pas de psychologues. Pourquoi, à votre niveau, vous n'avez jamais fait une demande, parlons peut-être du ministère des Affaires sociales, ou peut-être même directement aller au niveau du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, de façon à ce qu'il y ait des psychologues dans toutes les écoles de la RDC?
Nous sommes une association, nous avons, comme je l'ai dit, on a des collaborations avec les ministères, on travaille de façon technique sur certaines matières. Et le ministère prend ce qui convient par rapport à son programme, exécute, mais nous faisons des propositions, nous ne sommes pas fermés. Et nous, je pense qu'il faut toujours garder la lueur d'espoir parce que petit à petit, on va y arriver.
Mais il ne faudrait pas vous limiter à faire des propositions, il faudrait agir.
Nous avons les écoles, nous agissons, nous avons le cours pour les parents.
Deux écoles ne suffisent pas.
Au niveau de l'association pour la famille, on est membre de plusieurs fédérations, que ce soit africaine ou internationale pour la famille. On travaille en coalition avec beaucoup d'autres ONG ici sur place. Et je pense que la matière est en train de se diffuser calmement, mais nous sommes en train d'y aller.
Docteur Jacques Aimé Bazebozo, on va terminer par là. Juste une dernière question. À partir de quel âge faut-il engager un dialogue avec un enfant? Est-ce qu'il faut attendre que l'enfant atteigne 10 ans ou 11 ans, ou peut-être 12 ans? Ou peut-être il faut battre le cercle avec les choses, c'est-à-dire à 2 ans peut-être?
Il faut le faire très tôt. Il faut devenir ami de ses enfants très tôt, quand ils sont vraiment petits, quand il faut jouer avec ses enfants. Il faut se mettre à terre avec ses enfants. C'est comme ça que ça reste. Il ne faut pas commencer à 10 ans parce que tu n'es pas ami. L'amitié commence très tôt et ça va rester.
Mais trop d'amitié, ça risque de pas réduire un peu l'efficacité de l'action que le parent pourrait amener.
Non, quand on parle d'amitié, on ne dit pas des blagues. C'est-à-dire, amitié, c'est très différent des blagues. Les parents jouent avec les enfants parce qu'à un certain âge, les enfants ont besoin de jeux pour leur croissance. Que ce soit psychomotrice ou que ce soit intellectuel, ils ont besoin de ça. Les parents participent avec les enfants. C'est comme ça qu'on tisse l'amitié. L'amitié ne se prête pas. Ça se tisse avec les enfants.
Alors, les parents qui aimeraient bien bénéficier de vos services, ils peuvent vous contacter où exactement?
Nous sommes au numéro 18 de l'avenue Bakolé, au quartier Rigini, à l'école Mindoto. C'est là où se trouve aussi le siège de l'association pour la famille. Ils peuvent passer et vous pouvez, s'ils vous appellent, vous avez les coordonnées, vous pouvez transmettre les numéros de téléphone.
Nous rappelons que c'est le 089-89-44-683.
Oui, oui.
Dr. Jacques-Aimé Bazé-Bosso, nous rappelons que vous êtes secrétaire général de l'association pour la famille, AFA en sigle. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup.